Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. L'Indonésie sera l'hôte de la réunion annuelle de la Banque islamique de développement. L'Indonésie est le premier pays obtient la certification du bois légal européen. Les produits de l'alimentation et des boissons de l'Indonésie ont été introduits en Amérique. Selon BKPM, l'Indonésie attire toujours les investisseurs. L'exportation des produits de rotin de l'Indonésie augmente. Coopération entre l'Indonésie et l'Égypte dans le domaine de l'industrie. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'Indonésie accueillera la réunion annuelle de la Banque islamique de développement et cette réunion se tiendra du 15 au 19 mai à Jakarta Convention Center, Jakarta. Le conseiller du ministre des Finances, le domaine de macroéconomique et les finances internationales, M. Andin Hardianto à Jakarta, a déclaré que l'événement sera assisté par 2700 délégués de 56 pays membres de la Banque islamique de développement. La délégation composait le ministre, le responsable du gouvernement, le dirigeant de la Banque islamique de développement, l'homme d'affaires et les participants locaux. Le thème de la réunion annuelle est le renforcement de la croissance et la réduction de la pauvreté par le développement des infrastructures. Selon lui, le thème est en ligne avec les conditions des pays membres de développement de l'islam, donc certains sont des pays en développement. Ce forum est précieux pour l'Indonésie afin de développer l'économie de la charia.
Forum ini tentunya menjadi sangat bermanfaat bagi Indonesia di mana saat ini.
Ce forum sera très bénéfique pour l'Indonésie, où le rôle économique de la charia en Indonésie est encore très limité. Il y a encore de 5% et nous allons augmenter pour devenir plus grand à l'avenir. Et cela est une bonne occasion en Indonésie pour augmenter sa capacité. Il y a 56 pays, il exige une grande variété d'experts, professionnels, entrepreneurs dans le domaine de la charia qui peut bénéficier de ce forum. Selon Andin Hadianto, à cette réunion, l'Indonésie et la Banque islamique de développement signeront également un cadre de partenariat stratégique entre les États membres en 2016 jusqu'à 2020. Le cadre de partenariat axé sur le développement de l'infrastructure, le développement humain, le système de financement de la charia, l'augmentation du rôle du secteur privé et le programme de liaison inverse. L'Indonésie a obtenu la certification des produits du bois de la forêt légale de l'Union européenne par l'accord de partenariat volontaire ou APV sur l'application de la législation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux ou FLEGT pour toutes les exportations de produits de bois d'Indonésie aux 28 pays de l'Union européenne. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, à Jakarta, le jeudi, a déclaré que le succès est le résultat de la bonne diplomatie du gouvernement et aussi d'autres parties prenantes. Ceci est une nouvelle chose pour renforcer la diplomatie économique indonésienne. Cette question se reflète dans la déclaration conjointe entre le président Joko Widodo et le président de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker, à Bruxelles le 21 avril 2016. Les deux dirigeants ont convenu de commencer immédiatement le système d'échange de bois légal dans la lutte contre l'exploitation forestière illégale et de promouvoir le commerce de bois légal par la licence de FLEGT. Le ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie et le ministère des Affaires étrangères à Jakarta jeudi ont tenu une conférence conjointe liée à la présentation indonésienne en tant que premier pays dans le monde qui a reçu la licence de FLEGT de l'Union européenne. Lors de la conférence de presse, la ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya Bakar, a déclaré que le système de vérification de bois légalité est un système qui assurera les hommes d'affaires forestiers à respecter la réglementation et assurer la durabilité de la gestion des forêts et du bois ou la légalité du bois. Donc, le système de vérification de la légalité du bois indonésien ferme l'accès au marché du bois illégal. Les produits d'alimentation et des boissons en provenance d'Indonésie ont été introduits au public américain par l'intermédiaire de l'événement Passport DC en 2016 à Washington DC pour explorer le marché de ce produit. L'attaché commercial de Washington DC, M. Reza Pahlevi, dans un communiqué de presse a déclaré jeudi que la plupart des visiteurs qui sont venus de stands indonésiens ont donné une réponse positive. À cette occasion, en plus de produits de l'alimentation et des boissons, quatre pavillons indonésiens mettent en vedette des produits de mode, accessoires, le batik, les artisanats et décorations de la maison. M. Reza Pahlevi a ajouté qu'il étudie actuellement la vente des produits alimentaires et des boissons dans plusieurs grands supermarchés aux États-Unis. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le chef du Conseil de coordination des investissements au BKPM, M. Franky Sibarani, a affirmé que l'intérêt des investisseurs à investir en Indonésie était élevé parce que les investisseurs ne voient pas seulement l'Indonésie comme un marché, mais aussi en tant que base de production de l'ASEAN et en Asie. M. Franky Sibarani est optimiste que le grand intérêt d'investissement devient un énorme potentiel au milieu de la concurrence avec le Vietnam, le Myanmar et l'Inde. Avant de maximiser le potentiel de ces investissements, le gouvernement a fait les réformes des politiques et du service de licence. Les réformes faites par le gouvernement visent à améliorer la compétitivité de l'Indonésie comme pays de destination de l'investissement. Les exportations de produits en rotan indonésien ont augmenté en ligne avec la mise en œuvre de l'ère de la communauté économique de l'ASEAN. L'une des raisons est l'augmentation de l'artisanat en rotan des centres des artisans de rotan au district de Rumbai et Rumbai Pesisir, dans la ville de Pekanbaru, la province de Riau. Un artisan de rotan, M. Mahmud, a déclaré jeudi à Pekanbaru que l'augmentation des exportations était causée par la diminution des productions de meubles en rotan de la Chine parce que ce pays n'a plus de matières premières. Même certains pays concurrents ne peuvent pas répondre également à la commande des meubles en rotan et ont demandé des producteurs de l'Indonésie de remplir ses commandes comme la demande en provenance des pays européens, en plus des États-Unis et les pays de l'ASEAN. La politique du gouvernement d'arrêter l'exportation du rotan brut depuis le début de 2012 a eu un impact positif sur l'industrie du rotan indonésien qui peut créer l'emploi et absorber les travailleurs dans la région. Des huit pays en développement, y compris l'Indonésie, a profité de la coopération internationale pour augmenter le développement industriel dans le niveau bilatéral. Nous avons rencontré l'ambassadeur indonésien en Égypte, M. Helmi Fauzi, a déclaré le directeur général de la sécurité et le développement d'accès de l'industrie internationale, au KPAII, du ministère de l'Industrie, M. Ahmad Sigit Dwiwahyono, dans un communiqué de presse reçu à Surabaya jeudi. Dans la réunion, ils ont discuté divers potentiels de coopération dans le domaine industriel entre l'Indonésie et l'Égypte, entre autres le plan de coopération entre PT Industrie Kereta Api ou INCA avec des entreprises d'État en Égypte qui est encore en cours de négociation. L'ambassadeur d'Indonésie en Égypte et le directeur général de KPAII sont d'accord pour donner le soutien afin que la coopération bilatérale puisse être réalisée dans un avenir proche. En outre, il y a aussi la coopération de l'assistance technique et le transfert de technologie qui vise à assurer l'accès au marché de PT INCA sur le marché égyptien et les pays environnants. Chers amis, c'était le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
C'est l'antenne, bonsoir. Voici donc le commentaire ayant pour le titre « Les tensions accrues dans la mer de Chine méridionale et les efforts de la solution ». Les tensions dans la région de la mer de Chine du Sud contestées continuent d'augmenter. De grands pays, à savoir la Chine et les États-Unis, font leurs propres manœuvres. La flotte de la marine chinoise a intentionnellement expulsé les navires de guerre des États-Unis du territoire reconnu Pékin comme son propre. Auparavant, le navire de guerre américain USS William P. Lawrence a navigué à une distance de 12 000 nautiques des îles de Fiery Cross Reef qui est revendiquée par la Chine. Pékin a nommé la région avec les îles Nansa, tandis que la région contestée est appelée internationalement les îles Spratly. Les États-Unis rendent la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la limite du mouvement des navires jusqu'à 12 000 nautiques dans la région comme son prétexte. D'autre part, le ministère de la Défense de la Chine a déclaré que l'entrée du navire aux États-Unis sans autorisation de Pékin dans les eaux près de Spratly est un acte grave de provocation. Les tensions en mer de Chine méridionale étaient plus élevées après que Pékin ait fait la construction d'installations dans la région massivement. Historiquement, la Chine prétend que certaines zones de la mer de Chine méridionale ont appartenu à la Chine depuis les anciennes dynasties il y a plusieurs siècles. Pour la Chine, la mer de Chine méridionale est une zone très potentielle avec de grandes ressources économiques. En plus d'avoir un grand écosystème marin avec la plus grande biodiversité dans le monde et d'être en mesure de produire des poissons avec le nombre le plus élevé du monde, la mer de Chine méridionale est dit de contenir 50 milliards de tonnes de pétrole brut et plus de 20 milliards de mètres cubes de gaz naturel. La tension augmentait plus avec l'entrée des États-Unis dans la région. On peut dire que la manœuvre des deux grands pays dans le territoire contesté est l'un des facteurs à l'origine de l'escalade de la tension. Basée sur le récent incident, la réaction des pays de l'ASEAN est attendue. Pour l'ASEAN, la Chine et les États-Unis sont des partenaires tout aussi stratégiques. Mais chaque État membre de l'ASEAN peut avoir le point de vue et des intérêts différents en ce qui concerne la mer de Chine méridionale. L'Indonésie elle-même a expressément demandé que toutes les parties devaient trouver la meilleure solution pour résoudre pacifiquement le différend. Au moins, les parties en conflit s'abstiennent de provocations. Ils devraient trouver ensemble des solutions pour le meilleur règlement. Sagittaire, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.uk.
Chers auditeurs et auditeurs, on vous présente maintenant notre programme quotidien aujourd'hui dans l'histoire de la voix de l'Indonésie, l'édition le 13 mai. On va commencer le 13 mai 1998. La grande émeute donc est autour de Jakarta, le déclenchement de la démission du président Suharto. Les émeutes au mois de mai 1999 est une émeute qui se passe en Indonésie de 13 à 15 mai 1998, en particulier dans la capitale de Jakarta. Mais les émeutes se passent aussi dans quelques grandes villes telles que Surabaya et Surakarta. L'événement du 13 mai a déclenché la démission du président Suharto et le point de départ pour le début de la réforme en Indonésie. L'émeute a commencé par la crise financière asiatique et déclenchée par la tragédie de Trisakti, dans laquelle 4 étudiants de l'université Trisakti ont été tués lors d'une manifestation le 12 mai 1998. Dans cette émeute, les nombreux magasins et entreprises sont détruits par les masses, surtout les appartenant des citoyens indonésiens d'origine chinoise. Dans les émeutes, il y a les nombreux citoyens indonésiens d'origine chinoise ont quitté l'Indonésie. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui est responsable derrière les émeutes du 13 mai 1998. On change le 13 mai 1989, l'action de la grève de femmes des étudiants chinoises. Un certain nombre d'étudiants chinois a fait une grève de la faim sur le parc de Tiananmen à Beijing le 13 mai 1989. Auparavant, le 27 avril, les milliers d'étudiants et travailleurs ont organisé une manifestation sur ce parc pour protester contre le gouvernement. Un jour après le début de la grève de la faim, le gouvernement chinois a eu des entretiens avec les étudiants, mais aucun accord n'a été atteint. Avant le 20 mai, le gouvernement chinois a imposé une loi martiale à Pékin, mais le mouvement vers les troupes de la place Tiananmen bloqué par des étudiants et des personnes. Enfin, le 3 juin, troupes chinoises ont pris d'assaut la place Tiananmen et réussi à effacer les manifestants de ce parc. Entre 1969 1969, les émeutes raciales se passent entre les Chinois et les Malais à la Kuala Lumpur, en Malaisie. L'incident du 13 mai 1969 était une émeute entre les Chinois de Sousse et les Malais se passe à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 13 mai 1969, qui cause la victime de 184 morts. Cette émeute commence par les élections du 10 mai 1969. La coalition au pouvoir dirigée par l'Alliance de l'Organisation Nationale des Malais Unis, ou UMNO, a subi la plus grande défaite depuis 1955. Bien qu'elle a gagné finalement cette élection, le plus grand parti chinois, le Parti d'Action démocratique chinois et mouvement, a obtenu une fois à l'élection et a le droit de tenir un défilé de la victoire à travers le chemin qui a été mis à Kuala Lumpur. Toutefois, le défilé est bruyant et rougeux et dévié de sa trajectoire et conduit au quartier malais Kampung Baru, se moquant de ses habitants. Bien que ce parti a présenté ses excuses de lendemain, l'UMNO a annoncé un contre-masse, à commencer par le chef de l'État de Selangor, Dato Harun bin Idris, à Jalan Raja Muda pour célébrer leur victoire. Mais les personnes qui ont obtenu les informations recueillies par les Malais ont attaqué les Chinois de Chuch de Setapa. Les manifestants en colère rapidement organisé une vengeance en tuant deux motards de Pajas. Et l'émeute explosée. Les émeutes ont pris effet dans la capitale zone Selangor à travers le pays Kuala Lumpur. Et l'usine nationale et un couvre-feu a été annoncé le 16 mai. Chers auditeurs, c'était notre aujourd'hui dans l'histoire, l'édition 13 mai de la Voix d'Indonésie à Jakarta. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Sergio Blanton, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point et pour le titre « Déclaration commune pour la paix mondiale ». La plus grande organisation islamique en Indonésie, Nahdlatul Ulama ou NU, a tenu le sommet international du leader islamique modéré ISOMIL à Jakarta les 9 et 10 mai visant à inspirer la paix mondiale. La réunion a été ouverte par le vice-président Youssouf Kalla et a été suivie par des centaines d'ulémas et des savants de 35 pays. Youssouf Kalla, dans son discours, a exhorté les dirigeants de l'islam afin de diffuser le message sur l'islam tolérant. Youssouf Kalla a rappelé que les participants de la conférence se sont réunis à Jakarta pour produire une solution pour lutter contre le radicalisme sous la forme du terrorisme, la guerre et le conflit. Selon Youssouf Kalla, l'existence d'un faigot 6 milliards de musulmans répartis dans 57 pays dans le monde devrait être une force pour répandre la bonté de l'islam. À la clôture du sommet international de l'islam modéré, mardi le 10 mai, le président de Nahdlatul Ulama, Saïd Akil Siroj, a affirmé « Il était temps pour les pays musulmans à s'unir pour créer la paix dans le monde entier ». À cette occasion, Akil Siroj a déclaré 16 points de déclaration de Nahdlatul Ulama sur la formulation des stratégies pour la paix mondiale. D'une manière générale, cette déclaration a condamné l'attitude des extrémistes et des terroristes qui menacent la paix mondiale. En outre, le Nahdlatul Ulama invite également les ulémas du monde entier ainsi que des dirigeants interreligieux pour maintenir la paix. Cette déclaration a également exprimé l'importance du concept des valeurs islamiques de Nusantara, dont les valeurs de l'éthique et de l'esprit peuvent être une source d'inspiration pour la paix mondiale. L'islam Nusantara est l'islam qui respecte les cultures existantes et priorise la paix et l'harmonie. Cependant, Siroj a affirmé, Nahdlatul Ulama n'a pas d'intention d'exporter l'islam de Nusantara vers d'autres régions du monde. NU a invité d'autres communautés musulmanes de rappeler la beauté et le dynamisme qui naît de la rencontre historique entre l'esprit et les enseignements d'islam avec la réalité de cultures locales dans le monde entier qui a donné naissance à une variété de grandes civilisations comme dans l'archipel. Concernant la déclaration de Nahdlatul Ulama, en participant de la conférence du Liban, le recteur de l'université Kuliyatud Da'wah, Cheikh Abdul Nasser Jabri, a dit « Les valeurs développées par Nahdlatul Ulama sont en harmonie avec les enseignements du prophète Muhammad dans la construction d'une civilisation, en particulier en termes de développement de modération et de tolérance. » Le paradigme de l'islam modéré du style de Nahdlatul Ulama doit continuer à faire campagne aux diverses parties. La même chose a également affirmé par un ulema de la Syrie, Taufik Ramadan Al-Bouti. Il a dit que la réunion des ulémas à Jakarta était très importante. Cela peut créer un monde pacifique au milieu de la montée du terrorisme mondial. C'est pourquoi il soutient le concept de l'islam Nusantara. Il a confirmé que ce concept avait fourni une compréhension et invite le public à aimer le pays, pas anticulture et garder les bonnes traditions. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
L'Indonésie accueillera la réunion annuelle de la Banque islamique de développement. Et cette réunion se tiendra du 15 au 19 mai à Jakarta Convention Center, Jakarta. Le conseiller du ministre des Finances, le domaine de macroéconomique et les finances internationales, M. Andin Hardianto à Jakarta, a déclaré que l'événement sera assisté par 2700 délégués de 56 pays membres de la Banque islamique de développement. La délégation composée, le ministre, le responsable du gouvernement, les dirigeants de la Banque islamique de développement, l'homme d'affaires et les participants locaux. Le thème de la réunion annuelle est le renforcement de la croissance et la réduction de la pauvreté par le développement des infrastructures. Selon lui, le thème est en ligne avec les conditions des pays membres de développement de l'islam, donc certaines sont des pays en développement. Ce forum est précieux pour l'Indonésie afin de développer l'économie de la charia.
Jadi forum ini tentunya menjadi sangat bermanfaat bagi Indonesia di mana saat ini.
Ce forum sera très bénéfique pour l'Indonésie, où le rôle économique de la charia en Indonésie est encore très limité. Il y a encore de 5% et nous allons augmenter pour devenir plus grand à l'avenir. Et cela est une bonne occasion en Indonésie pour augmenter sa capacité. Il y a 56 pays. Il existe une grande variété d'experts, professionnels, entrepreneurs dans le domaine de la charia qui peuvent bénéficier de ce forum. Selon Andin Hadianto, à cette réunion, l'Indonésie et la Banque islamique de développement signeront également un cadre de partenariat stratégique entre les États membres en 2016 jusqu'à 2020. Le cadre de partenariat axé sur le développement de l'infrastructure, le développement humain, le système de financement de la charia, l'augmentation du rôle du secteur privé et le programme de liaison inverse. L'Indonésie a obtenu la certification des produits du bois de la forêt légale de l'Union européenne par l'accord de partenariat volontaire ou APV sur l'application de la législation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux ou FLEGT pour toutes les exportations de produits de bois d'Indonésie aux 28 pays de l'Union européenne. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, à Jakarta, le jeudi, a déclaré que le succès est le résultat de la bonne diplomatie du gouvernement et aussi d'autres parties prenantes. Ceci est une nouvelle chose pour renforcer la diplomatie économique indonésienne. Cette question se reflète dans la déclaration conjointe entre le président Joko Widodo et le président de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker, à Bruxelles le 21 avril 2016. Les deux dirigeants ont convenu de commencer immédiatement le système d'échange de bois légal dans la lutte contre l'exploitation forestière illégale et de promouvoir le commerce de bois légal par la licence de FLEGT. Le ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie et le ministère des Affaires étrangères à Jakarta jeudi ont tenu une conférence conjointe liée à la présentation indonésienne en tant que premier pays dans le monde qui a reçu la licence de FLEGT de l'Union européenne. Lors de la conférence de presse, la ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya Bakar, a déclaré que le système de vérification de bois légalité est un système qui assurera les hommes d'affaires forestiers à respecter la réglementation et assurer la durabilité de la gestion des forêts et du bois ou la légalité du bois. Donc, le système de vérification de la légalité du bois indonésien ferme l'accès au marché du bois illégal. Les produits de l'alimentation et des boissons en provenance d'Indonésie ont été introduits au public américain par l'intermédiaire de l'événement Passport d'ici en 2016 à Washington DC pour explorer le marché de ce produit. L'attaché commercial de Washington DC, M. Reza Pahlevi, dans un communiqué de presse a déclaré jeudi que la plupart des visiteurs qui sont venus de stands indonésiens ont donné une réponse positive. À cette occasion, en plus de produits de l'alimentation et des boissons, quatre pavillons indonésiens mettent en vedette des produits de mode, accessoires, le batik, les artisanats et décorations de la maison. M. Reza Pahlavi a ajouté qu'il étudie actuellement la vente des produits alimentaires et des boissons dans plusieurs grands supermarchés aux États-Unis. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le chef du Conseil de coordination des investissements, ou BKPM, M. Franky Sibarani, a affirmé que l'intérêt des investisseurs à investir en Indonésie était élevé, parce que les investisseurs ne voient pas seulement l'Indonésie comme un marché, mais aussi en tant que base de production de l'ASEAN et en Asie. M. Franky Sibarani est optimiste que le grand intérêt d'investissement devient un énorme potentiel au milieu de la concurrence avec le Vietnam, le Myanmar et l'Inde. Afin de maximiser le potentiel de ces investissements, le gouvernement a fait les réformes des politiques et des services de licence. Les réformes faites par le gouvernement visent à améliorer la compétitivité de l'Indonésie comme pays de destination de l'investissement. Les exportations de produits en rotan indonésien ont augmenté en ligne avec la mise en œuvre de l'ère de la communauté économique de l'ASEAN. L'une des raisons est l'augmentation de l'artisanat en rotan des centres des artisans de rotan au district de Rumbai et Rumbai Pesisir dans la ville de Pekanbaru, la province de Riau. Un artisan de rotan, M. Mahmoud, a déclaré jeudi à Pekanbaru que l'augmentation des exportations était causée par la diminution des productions de meubles en rotan de la Chine parce que ce pays n'a plus de matières premières. Même certains pays concurrents ne peuvent pas répondre également à la commande des meubles en rotan et ont demandé des producteurs de l'Indonésie de remplir ces commandes comme la demande en provenance des pays européens, en plus des États-Unis et les pays de l'ASEAN. La politique du gouvernement d'arrêter l'exportation du rotan brut depuis le début de 2012 a eu un impact positif sur l'industrie du rotan indonésien qui peut créer l'emploi et absorber les travailleurs dans la région. Des 8 pays en développement, y compris l'Indonésie, a profité de la coopération internationale pour augmenter le développement industriel dans le niveau bilatéral. Nous avons rencontré l'ambassadeur indonésien en Égypte, M. Helmi Fauzi, a déclaré le directeur général de la sécurité et le développement d'accès de l'industrie internationale, ou KPAII, du ministère de l'Industrie, M. Ahmad Sigit Dwiwahyono, dans un communiqué de presse reçu à Surabaya jeudi. Dans la réunion, ils ont discuté divers potentiels de coopération dans le domaine industriel entre l'Indonésie et l'Égypte, entre autres le plan de coopération entre PT Industrie Kereta Api ou INCA avec des entreprises d'État en Égypte qui est encore en cours de négociation. L'ambassadeur d'Indonésie en Égypte et le directeur général de KPAII sont d'accord pour donner le soutien afin que la coopération bilatérale puisse être réalisée dans un avenir proche. En outre, il y a aussi la coopération de l'assistance technique et le transfert de technologie qui vise à assurer l'accès au marché de PT INCA sur le marché égyptien et les pays environnants. Chers amis, c'était le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la rubrique du magazine culturel. Et aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Pekalongan, à Java Central, afin d'écouter du café Tahlil. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. L'Indonésie est riche en diversité culinaire. l'une des régions en Indonésie qui n'est pas seulement célèbre pour son batik, mais aussi en raison de son culinaire, est Pekalongan. Pekalongan a la boisson unique, à savoir du café Tahlil. Vous pouvez seulement goûter du café Tahlil à Pekalongan, Java Central. Du café Tahlil est la culturation de la culture arabe à Pekalongan, parce que les citoyens de Pekalongan se composent de différentes races, donc la majorité est les Javanais et l'Arabe. Donc, ce n'est pas surprenant que nous voyons beaucoup de visages arabes à Pekalongan. Bien sûr, cette acculturation a un impact sur les coutumes religieuses, par exemple, Tahlilan. Du café Tahlil était initialement la boisson étant servie à l'événement ou l'activité Tahlilan où citaient le Coran ensemble pour prier pour le récemment décédé. Ce café Tahlil devenait l'affaire culinaire dans la ville Pekalongan. Ce n'est pas seulement un café, parce qu'il y a environ 7 sortes d'épices qui sont mélangées et brassées dedans. À Pekalongan, vous pouvez trouver les vendeurs de cette boisson autour du carré du village Pekalongan. Le prix d'une tasse du café Tahlil est 1500 rupiah et lorsqu'il est ajouté du lait, le prix est 2500 rupiah. Habituellement, la stalle du café Tahlil est ouverte après le coucher du soleil. Les ingrédients nécessaires pour faire du café Tahlil sont 3 litres d'eau, 20 g de clous de girofle, 10 cm de gingembre, 10 cm de cannelle, 9 g de cardamome, 7 citronnelles pilées, 3 feuilles de pandanus, en moitié de muscade, 200 g de cassonade finement peigné et 100 g du café en poudre. D'abord, faire bouillir tous les ingrédients sauf la cassonade et le café en poudre jusqu'à l'ébullition. Après cela, réduire le feu et cuire de nouveau pendant 2 heures. L'étape suivante consiste à entrer et cuire la cassonade jusqu'à dissolution. Ensuite, insère du café noir en poudre et bien mélangé et prêt à être servi. Boire du café Tahlil sera plus favorable si accompagné par mendoan, du riz gluang kincho ou arachide. Tempe mendoan est enveloppé dans la farine, puis frit, tandis que du riz gluang kincho est du riz gluang qui a été cuit et donné une touche de sauce de sucre brun. Du café peut être ajouté par du lait. Du café Tahlil est la boisson typique de la ville Pekalongan. Même certains disent que du café Tahlil est devenu une tradition du peuple Pekalongan. Outre pour augmenter l'esprit, du café Tahlil peut aussi comme adhésif de fraternité parmi le peuple Pekalongan. Parce que d'habitude, la soirée, on est allé à la boutique de café avec des amis tout en profitant de la chaleur du café en discutant beaucoup de choses. Du café Tahlil est aussi soupçonné de guérir les maux. Parce que quand boire ce café, la sensation de chaleur instantanément répartie dans tout le corps et immédiatement soulagé les maux. Le corps sera rafraîchi comme obtenir une nouvelle énergie après avoir bu du café Tahlil. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant sur l'Indonésie. Merci de votre fidélité. Au revoir. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et en fort titre. Les pesticides respectueux de l'environnement des déchets industriels des cigarettes. Serviteurs, ces derniers temps, nous nous rendons compte que l'utilisation de pesticides de synthèse comme les fruits des Simalakama. Derrière les grands avantages pour augmenter la production agricole, il était caché un terrible danger pour la vie humaine. Le danger est la pollution environnementale et l'empoisonnement provoquant des effets mortels tels que le cancer, le handicap, etc. Se rendre le danger, un groupe d'étudiants de l'Université islamique d'Indonésie, UII Yogyakarta, à savoir Indrasti Dwi Pujilestari, Cahyati, Rizki Nur Lestari et Marlina du programme d'études UPRODI de la chimie, ont fabriqué le pesticide naturel respectueux de l'environnement qui utilise la production de déchets de cigarettes sous la forme de restes des feuilles et les tiges de tabac. Une telle innovation par la recherche intensive d'explorer les avantages des déchets résiduels de tabac vise à aider les agriculteurs des plantes de piment de faire face aux ravageurs de chenilles lésionnaires. Les attaques de ravageurs de chenilles lésionnaires sont souvent considérées comme un fléau pour les agriculteurs de piment, car il est très répandu et destructrice. Selon Dwi Pujilestari, si le reste des feuilles et des tiges de tabac est dans les extraits, ils produisent le contenu de substances de nicotine alcaloïde élevée. Cette substance est une sorte de neurotoxine très puissante qui paralyse tous les insectes. Le fonctionnement du pesticide naturel est respectueux de l'environnement et de perturber le système nerveux central des insectes qui ont été exposés à la nicotine. Et les résidus de ces pesticides se décomposent plus facilement dans la nature afin de ne pas polluer l'environnement. Pour extraire le contenu des substances de déchets de tabac, il nécessite plusieurs processus. Tout d'abord, les déchets de tabac sont lissés et trempés dans une solution de méthanol. Ensuite, l'extrait des résultats d'immersion est filtré et le solvant méthanol est évaporé pour obtenir un extrait brut. L'extrait brut est ensuite traité pour produire un alcaloïde qui est prêt à être utilisé en tant que solution de pesticide. Bien que les pesticides puissent tuer les ravageurs de plantes de piment, les étudiants du II nécessitent encore des recherches pour déterminer la combinaison de la solution d'extraction des déchets de tabac qui est plus efficace comme pesticide naturel. En outre, ces étudiants s'efforcent encore à développer les moyens de fabriquer les pesticides naturels qui sont facilement d'appliquer par les agriculteurs de piment sur le terrain. Serviteurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence.
Nous vous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis de la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, voici le magazine de musique et des chansons de vendredi avec moi, Maman Swartono. Chers auditeurs, vous pouvez entendre nos émissions par l'émetteur de Oncourt sur 9525 kHz ou bien vous pouvez écouter notre programme avec le streaming audio sur RRI Play www.voi.co.id. Bien sûr, sur votre appareil de gadget ou portable. Chers auditeurs, aujourd'hui, comme chaque vendredi, on vous présente le genre de musique de dangdut. Et ce soir, on parle de chanteuse de dangdut et Ed Sangra. Eh bien, comme le début de notre rencontre, écoutez d'abord une chanson de Ed Sangra intitulée « Jedok Jeduk ». Bonne écoute. Chers amis, plus de 30 ans, la chanteuse de la ville de Bandung, Eet Sangra, subissant toujours le monde chante. Elle a déjà passé avec le genre de pop rock avant. Mais le public a fait apprécier dans le genre de dangdut disco, ou disco, c'est-à-dire dangdut discothèque. Depuis à cette sens, il fait sa carrière dans le monde musical de dangdut. Aux années 90, elle a publié le deuxième album composé par Jeffrey Boulet. Katanya, c'est le nom de son album. C'est une adaptation de la chanson Zombie. Et l'autre album de Eet est encore le genre de disco dangdut ou dangdut discothèque, comme Café Dut, Cinta Kelapekan, Dewi Asmara et d'autres. Eet Sangra, elle est née à Bandung le 25 mai 1972. Et vous savez, depuis 10 ans, il aime la musique, surtout le pop et le rock. Et puis, elle a commencé sa carrière en participant des concours à divers festivals. Chers amis, alors, allez encore écouter la chanson de Eet Sangra intitulée Tergila-gila. Bonne écoute.
Kau bilang secara sin, jangan kau pura-pura pakai bahasa.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à l'émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.